20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les îles sont un formidable terrain pour les archéologues. Au-delà de leurs conquêtes, souvent complexes, les sociétés qui s'y implantèrent ont en effet déployé maints particularismes, autant de spécificités. L'Australie est un peuplement précoce de l'homme. Bornéo est la toute récente découverte du plus vieil art de l'humanité. Chypre et ses hippopotames nains, sans oublier le rat géant de Corse, le fameux Azoriculus corsicanus. Au sein de cet univers insulaire, le Japon tient une place particulière, puisque très tôt s'y développent des sociétés originales, très singulières. C'est à l'une d'elles que le magazine d'archéologie de France Culture se consacre ce soir, la société Jaumont, qui semble avoir tracé son propre chemin au rebours de toute autre civilisation, notamment occidentale. L'actualité fait aujourd'hui qu'une très belle exposition Jaumont naissance de l'art dans le Japon préhistorique se tient actuellement à la Maison de la Culture du Japon. Pour parler de cette société, un incontournable spécialiste du sujet, Laurent Nespoulous, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO, vos recherches portent sur le pouvoir politique et les élites sociales entre préhistoire et proto-histoire japonaise, comme sur l'histoire et l'épistémologie de l'archéologie du 19e siècle à nos jours. Laurent Nespoulous, disons-le tout de suite, la culture Jaumont est avant tout une société de chasseurs-collecteurs ?
Tout à fait. C'est non seulement une société de chasseurs-collecteurs, mais c'est une société de chasseurs-collecteurs sédentaires. Donc ils sont évidemment originales par rapport à ce qu'un public européen est habitué à entendre sur les sociétés de chasseurs, les premières sociétés de chasseurs-cueilleurs d'Europe à la fin de la dernière glaciation.
Donc on serait sur une sorte de néolithique, mais qui serait un néolithique où l'on n'aurait pas l'agriculture comme normalement on devrait l'avoir.
Exactement. Le problème, c'est que néolithique voulant dire formation des sociétés agraires, on est face à un problème terminologique. Mais effectivement, les sociétés Jaumont sont des sociétés sédentaires, développant parfois des habitats groupés fort complexes, avec un nombre d'habitants qui peut aller à plusieurs centaines, jusqu'à plusieurs centaines d'occupants, mais qui ne franchiront jamais le pas vers la culture, une économie de production de leur subsistance alimentaire.
Une seconde curiosité serait que cette culture aurait perduré plus de 10 000 ans.
Alors ça, c'est le problème des chronologies. Il n'y a pas d'ailleurs que le problème chronologique qu'on pourrait mentionner. Il y a aussi le fait que le Japon a beau être un ensemble d'îles, un archipel, c'est un ensemble qui spatialement s'étend sur des milliers de kilomètres. Si on à vol d'oiseau de l'île la plus à l'ouest de Kyushu jusqu'au nord de l'île principale de Honshu, on a 1500 kilomètres. Donc 10 000 années d'histoire des sociétés sur presque 2000 kilomètres d'espace, ça laisse évidemment la marge pour à nouveau faire des redécoupages et repréciser davantage ce à quoi on a affaire.
Ça paraît bien sûr très long. Pourquoi il n'y a pas eu ce découpage fait bien sûr par les archéologues japonais?
Alors c'est lié à l'histoire en fait, hein, de la découverte de la période elle-même. Au tout début, on ne pensait pas qu'elle était si ancienne et petit à petit, on s'est retrouvé à remonter sans cesse plus avant dans le temps, au point d'en arriver en fait au tardiglaciaire, c'est-à-dire la fin de la dernière glaciation autour de 13 000 sur des échelles de 13 000 avant notre ère.
Pour que la mise en place de ces sociétés Jaumont soit vraiment effective, ne faut-il pas tout d'abord qu'il y ait une nature extrêmement riche ?
Alors oui, ça c'est évidemment en fonction des endroits où l'on se trouve sur la planète. La fin de la dernière glaciation a signifié évidemment l'augmentation des températures, augmentation de la pluviométrie. Et il se trouve que la période la plus faste de la période Jaumont, c'est ce qu'on appelle l'optimum climatique de l'Holocène. Il y a quelque chose comme 6000 ans. Et ce sont effectivement des milieux naturels qui sont très 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 riches, autant sur le plan de ce que peut, les côtes, le milieu côtier halieutique peut fournir, que forestier, avec des forêts de glands, de marrons, de châtaignes, sur lesquelles les sociétés humaines vont pouvoir s'appuyer pour se développer et pour se sédentariser.
Justement, la réponse de l'homme sera la mise en place de véritables stratégies avec de fortes spécialisations centrées sur la pêche, la collecte des coquillages, celle des glands.
Alors la spécialisation viendra au cours de la période, mais c'est tout à fait certain que c'est l'élaboration de stratégies particulières qui vont permettre à ces hommes de la fin de la dernière glaciation et de la première moitié de l'Holocène de s'adapter sans jamais avoir à se mettre à produire leur alimentation. Donc en fait, optimiser des stratégies de prédation.
Il y aurait d'ailleurs un Jaumont des forêts et un Jaumont du littoral.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'espace que représente le Japon. Il y a évidemment des régions qui sont plus forestières, plus à l'intérieur des terres, et d'autres régions qui sont plus sur les côtes. Et par conséquent, c'est vrai que ça va entraîner pour ces sociétés sédentaires des économies qui seront plus tantôt tournées vers ce que le milieu côtier marin a à fournir, et d'autres qui seront tournées davantage vers une exploitation forestière.
Alors j'ai vu que dans les sites de l'intérieur, on va dire les sites forestiers, on aurait des meules, des broyeurs dans les habitats.
Et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du néolithique, c'est qu'effectivement on est face à des sociétés qui ne sont certes pas des sociétés de paysans, mais on a un outillage qui lui par contre va servir à concasser des glands, des marrons, qui est finalement le même que celui de leurs camarades néolithiques ailleurs dans le monde qui se servent de cet outillage pour faire de la farine avec les premières céréales.
Mais cette farine donc de châtaigne, cette farine de gland, c'est pas forcément très 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 comestible.
Alors le gland et marron, tels qu'ils sont disponibles en abondance dans le milieu forestier au Japon, dans ce Japon de l'Holocène, sont effectivement pas trop comestibles. Enfin, vous pouvez, mais il faut être très 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 motivé. C'est très amer et par conséquent, il y a tout un tas de stratégies là aussi de transformation qui permettent de faire partir cette amertume de ces fruits. La cuisson, le trempage, le concassage qui optimise encore plus tout ça. On a donc une chaîne opératoire de la transformation et d'une transformation qui sert à pouvoir nourrir des populations toujours plus croissantes, de toute évidence, compte tenu de la densité en site archéologique.
Et puis toujours dans ces Jaumont des forêts, on peut voir aussi une étonnante gestion des châtaigniers autour des sites.
Alors ça, c'est effectivement particulièrement au Jaumont moyen, à la fin du Jaumont ancien, c'est-à-dire sur des horizons qui sont de 4000, 3005 avant notre ère, ou autour de grands sites d'habitat avec une population importante, d'habitat groupé, on voit se profiler des espèces de périmètres autour des habitats. Et le périmètre immédiatement autour de l'habitat se caractérise par exemple par des espèces de forêts de châtaigniers qui n'ont pas été plantées, mais des forêts qui ont fait objet d'entretien par les habitants des habitats, de sorte à ce que le châtaignier puisse se développer plus efficacement que s'il était laissé à lui-même dans la forêt.
Et on ne peut pas parler de domestication dans ces cas-là. Ouais, c'est presque ça malgré tout.
En tous les cas, il s'agit d'un phénomène de domestication. Est-ce qu'à l'arrivée, par contre, on a des plantes qui sont domestiques ? C'est un autre problème. En tout cas, c'est le problème de l'archéologie du néolithique, où il y a évidemment toujours un processus entre la plante sauvage dont on entreprend la domestication et qui, à l'arrivée, donnera éventuellement une plante bien distincte de son ancêtre sauvage.
Laurent Nespoulou, les sociétés donc du Jaumont rentrent dans la catégorie des sociétés de chasseurs-collecteurs, mais des chasseurs-collecteurs-stockeurs, le stockage étant une des clés pour la classification des sociétés anciennes.
Alors, tout à fait, et ce à date vraiment très 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 haute, puisque on sait maintenant qu'à la fin de ce qu'on va appeler le paléolithique de l'archipel, donc vers 13 000 avant notre ère, on a déjà des sites d'habitat qui sont peut-être pas complètement sédentaires, mais semi-sédentaires, où les gens commencent déjà à stocker. On a un phénomène d'ensilage, si vous voulez, encore un peu primitif, mais sur certains sites d'habitat qui sont occupés de manière saisonnière dans l'année. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, si haut chronologiquement, et par conséquent, c'est on a là un des éléments de la besace technique de ces sociétés qui vont leur permettre de se sédentariser durablement ultérieurement.
Oui, c'est parce qu'on a du stock que l'on se sédentarise.
De fait, il y a des périodes de l'année où il faut tenir le coup, quoi. Et le stockage est absolument indispensable.
Comment stocke-t-on ? Qu'est-ce que l'on stocke d'ailleurs ? Bien sûr, vos glands, les farines.
Sur les périodes les plus anciennes, on a du mal à savoir exactement toujours. Hein. Mais effectivement, oui, c'est gland, c'est marron, c'est de l'ensilage dans le sol, hein, et ça se conserve très bien. Il arrive qu'on retrouve. Alors là, c'est pour des périodes plus récentes du Jaumont, mais il arrive qu'on retrouve des silos, petits silos. Hein. On imagine quand on parle de silos tout de suite de trucs gigantesques. Là, il s'agit vraiment de fosses de stockage à même le sol, avec une gangue d'argile pour protéger quand même les éléments qui sont placés dans le sol, pour pas qu'ils se mettent à pourrir, à dépérir, et qui sont stockés à la périphérie immédiate des sites d'habitat groupés.
Vers 7000 ans avant notre ère, c'est la découverte des propriétés du lac et de l'arbre à lac.
Alors ça fait partie aussi d'une des grandes originalités, c'est que là on a parlé jusqu'à présent d'économie de subsistance, qu'est-ce qu'il faut pour manger. De toute évidence, la laque ne servait pas à manger, mais par contre elle fait l'objet d'un soin tout particulier des habitants de l'archipel, particulièrement du nord-est de l'archipel. Et va servir, on va utiliser sa sève pour produire le liquide qui sert à laquer littéralement des poteries, des objets en bois, un peu plus tard aussi de la vannerie. Et ça fait de fait de la laque de l'archipel la plus vieille connue à ce jour.
C'est la laque noire que l'on voit sur les objets chinois.
Ben, dès le départ, elle est et noire et rouge, c'est-à-dire qu'en réalité, la bichromie des laques japonaises qu'on a l'habitude de considérer de nos jours comme les laques du Japon existe à date extrêmement ancienne. On n'a absolument aucune idée de tout ce qui a amené ces sociétés à maîtriser ces processus de transformation, parce qu'il faut pas oublier que l'arbre à laque est très 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 toxique, hein, qui peut provoquer tout un tas de pathologies assez ravageuses chez celui qui la manipule. Donc on n'a aucune idée de ce qui a pu faire franchir le pas à ces sociétés, mais par contre elles maîtrisent parfaitement ce processus assez rapidement, au point que dans ce Jaumont des villages que l'on voit apparaître à la fin du Jaumont ancien, au début du Jaumont moyen, donc toujours autour de ces horizons de 5000, 4005, 4000, on voit apparaître des bois de lacs, d'arbres à lacs, qui sont gérés de la même manière qu'on va gérer des bois de châtaigniers.
Donc le lac, ça s'obtient par incision.
Voilà, c'est un arbre, c'est un arbuste, hein, c'est un arbuste que l'on va griffer de sorte à en récupérer la sève. Et puis c'est cette sève qui ensuite, au travers de tout un processus de transformation, va être apprêtée. Là aussi, il va falloir la stocker et ensuite appliquer sur différents types de supports. Alors l'avantage évident de l'utilisation de cette matière sur, par exemple, des poteries qui sont cuites par ailleurs à relativement basse température, c'est l'imperméabilisation. Mais compte tenu du type d'objets que l'on a qui sont recouverts de lac, il est à peu près certain que c'est pas simplement pour imperméabiliser les objets que la société Jaumont a mis autant d'énergie à en maîtriser la technologie.
Le Jaumont, c'est aussi l'invention de l'arc.
Alors là, pour le coup, c'est pas très original. Oui, mais tout à fait. À la fin de la dernière glaciation, le milieu naturel change. On a l'apparition de la forêt, on a aussi une modification de la faune. Et l'arc et la flèche deviennent des outils bien plus efficaces que ce qu'utilisaient les habitants de l'archipel encore pendant la période glaciaire à proprement parler. Et en cela, ça rejoint tout à fait ce que l'on sait de d'autres sociétés qui vont connaître la fin de la dernière glaciation et le début de l'Holocène.
Justement, côté marin, on chasse au harpon, une invention caractéristique des sociétés du Pacifique Nord.
Ah, tout à fait. Et très rapidement, toujours dans cette logique de diversification des outils, hein, on va voir apparaître également des hameçons. Dans la besace du pêcheur Jaumont, vous avez toute une spécialisation de la pêche que l'on peut percevoir justement dans la grande variété du type de hameçon qui existe. Donc on est face à des sociétés qui savent spécialiser leur outillage à mesure que leur environnement se diversifie. La diversité est évidemment une des caractéristiques des environnements se développant au cours de l'Holocène.
J'ai vu dans l'exposition donc à la Maison du Japon une très belle dent de requin perforée.
Oui.
Là, visiblement, on collecte des choses rares, des choses étonnantes.
Alors, il y a effectivement, alors peut-être moins que dans des sociétés néolithiques plus tardives, mais c'est vrai que Jomon est une période pendant laquelle on va voir circuler tout un tas d'objets dont la nature dépasse une fonction strictement utilitaire. Parler de la dent de requin, c'est tout à fait le cas. Il y a aussi tout un tas de roches métamorphiques de Hokkaido qui sert à fabriquer des haches en pierre polie, lesquelles sont tellement fines qu'elles n'avaient aucune fonction, on va dire, ni guerrière, ni en tant qu'outil. Et donc se mettent en place tout un tas de réseaux de circulation qui vont finalement connecter toutes les sociétés occupant l'archipel.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Laurent Lespoulou, le jaumon des littoraux, des bords de mer, c'est aussi la chasse aux mammifères marins.
Alors c'est la chasse aux mammifères marins, effectivement, puisqu'on a on a tout un tas de sites archéologiques où on a la preuve qu'on s'est livré à la chasse et même au massacre de certaines populations de cétacés. C'est notamment le cas sur la mer du Japon où on a comme ça des sites archéologiques où on a sur des épaisseurs stratigraphiées très 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 conséquentes 2 mètres d'ossements de dauphins par exemple qui correspondent généralement, et là c'est peut-être le côté moins sympathique de l'affaire, à la disparition complète de certaines populations de cétacés dans ces régions ultérieurement.
Ce mode de vie a-t-il été un véritable choix de la part de ces sociétés Jomon ?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par choix, évidemment, mais il est évident que les stratégies qui sont mises en place par ces sociétés, des stratégies d'adaptation au nouveau milieu qu'est celui de l'Holocène, sont le fruit de choix tout à fait raisonnés. C'est pas par hasard qu'on invente l'arc et la flèche. C'est pas par hasard qu'on maîtrise les technologies de la laque. C'est pas non plus par hasard que on développe un outillage extrêmement diversifié qui permet d'optimiser la prédation sur le milieu. Donc oui, ce sont des choix de société qui ont décidé de tirer parti le plus possible de leur environnement. Et de toute évidence, ça leur a quand même bien réussi, puisque ça leur permet de connaître une croissance continue pendant des milliers et des milliers d'années, jusqu'à ce que, climatiquement, les choses se mettent à changer un petit peu.
En tout cas, dans la relation nature-homme, on voit bien sûr que la nature est exploitée, elle est même surexploitée.
Oui, ben ça, c'est toujours le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les stratégies de prédation sur le milieu portent leurs fruits, avec un phénomène d'intensité de prédation qui est important, on a une augmentation de la démographie, on a des sites toujours de plus en plus importants et l'obligation de continuer à nourrir tout le monde. C'est un peu une course en avance et ça va entraîner dans certains cas des phénomènes de surpêche, des phénomènes de surexploitation du milieu.
Vous voyez les coquillages disparaître, devenir de plus en plus petits pour enfin
exactement,
ne plus être là.
La baie de Tokyo qui se caractérise par la présence de d'amas coquillés qui sont peut-être parmi les plus imposants qu'ait jamais connu l'histoire de l'humanité.
Donc des accumulations de coquilles.
Des accumulations de coquilles qui sont le fruit d'une consommation. Pour les couches stratigraphiques les plus anciennes, on a des coquilles de bivalves qui sont tout à fait conséquentes. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche des phases plus récentes de la période, ces coquilles sont toujours de plus en plus petites. Ce qui prouve qu'on en est réduit à un moment donné à pêcher, y compris des bivalves. Et là, je vais dire une énormité, mais non adulte. Si vous voulez.
En tout cas, la découverte de cette société ancienne, nous la devons justement à un spécialiste des brachiopodes, les fameux coquillages bivalves.
Alors oui, effectivement, historiquement, le terme même de jaumon, en fait, c'est une traduction d'un terme anglais qui est Cord Marked Pottery, donc une poterie à décor en impression de corde, à la corde. Et ce terme a été apporté au Japon par un bonhomme qui s'appelle Morse. Edward Morse, qui était d'ailleurs un élève d'Agassiz et qui avait pour spécialité l'étude des bivalves et donc qui était venu étudier au Japon les amas coquillés. Et c'est en fouillant un amas coquillé qu'il est tombé sur des poteries avec des décors en impression de corde, d'où le terme qui a collé à cette époque-là et qui a été traduit ensuite en japonais pour Jaumont.
Laurent Espoulou, qu'en est-il des habitations Jaumont ? Sur 10 000 ans, il doit y avoir quand même une très forte variabilité.
Ah oui, il y a une grande variabilité, non seulement chronologique, mais également spatiale. Par exemple, ce que l'on disait tout à l'heure de ces habitats groupés relativement densément peuplés, c'est valable pour le nord-est, pour les régions de Nagano. Mais par exemple, dans l'ouest de l'archipel, on n'a pas d'habitat de cette ampleur. Du reste, ce type d'habitat groupé où on peut imaginer qu'il y a eu plusieurs centaines d'habitants de manière simultanée, puisqu'on a plusieurs centaines de bâtiments par ailleurs, sont datés véritablement de la fin de la phase ancienne du Jaumont et du début de la phase moyenne. Donc en gros, on a un millier d'années.
Dans 3500.
Voilà, c'est ça. On a une fourchette de temps d'un millier d'années autour entre 4005, 3005 par là. On peut déborder un peu
avant notre ère.
Avant notre ère, on peut déborder ici et là, mais c'est donc un phénomène qui traduit l'intensité maximale du fonctionnement de ces sociétés, mais dans le nord-est de l'archipel.
Ces maisons, elles sont semi-souterraines, visiblement en bois et en terre.
Alors oui, c'est ce que les archéologues appellent des fonds de cabane, semi-enterrées, avec une couverture en bois et en matière végétale, parfois en terre. Effectivement, la pierre n'est pas utilisée. C'est essentiellement terre et bois. Hein. Mais certaines de ces bâtiments sont absolument gigantesques. Hein. On a comme ça, donc, dans ces sites du nord-est de l'archipel, des bâtiments à fonction collective, qui sont très 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 longs, qui servaient vraisemblablement à toute une communauté. Et à côté de ces grands bâtiments, on a des maisons plus modestes en taille qui devaient abriter 4 ou 5 individus. Donc on a à la fois la famille nucléaire, si vous voulez, et de grands bâtiments qui servaient de façon collective.
Alors, j'ai vu des chantiers japonais, bien sûr, Jaumont, quand je suis passé au Japon, c'est assez étonnant. Donc le fond de cabane, il est bien là, mais les archéologues ont des méthodes de fouilles un peu curieuses, enfin qui nous paraissent assez curieuses. Ils laissent les objets sur des sortes de pilotis que l'on appelle des ziggourats dans le jargon des archéologues.
Oui, c'est vrai que c'est pas partout comme ça, hein. Mais en effet, on a tendance à relever l'objet, l'artefact, quand il y en a un, en tout dernier. C'est original si on veut, mais fondamentalement, on fait pareil, quoi, sauf qu'on relève l'objet avant, quoi, c'est tout.
Laurent Espoulou, le Japon, c'est avant tout la céramique. On a souvent dit que les premières céramiques sont justement issues de cette société Jaumont. Aujourd'hui, la Corée, la Chine ont fourni des éléments, semble-t-il, encore plus anciens.
Alors, c'est vrai de la Sibérie, c'est vrai de la Chine, effectivement. On est sur des dates qui peuvent être légèrement, voire franchement plus anciennes. Tout simplement parce que la recherche archéologique a avancé depuis maintenant une vingtaine d'années. Il n'en demeure pas moins que, dans le cas de l'archipel, on est face à une des poteries les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Donc il faudrait imaginer, en fait, cette grande ancienneté de la poterie comme faisant partie d'un univers culturel propre à l'Asie du Nord-Est. Et c'est par ailleurs une innovation qui permet de consommer des fruits qui sont, avec la fin de la dernière glaciation, de plus en plus présents dans le milieu. Ça n'a rien à voir avec une économie de production. C'est au contraire toujours pour optimiser la prédation sur le milieu.
Et bien sûr de faire décanter ces glands qui sont très...
Et cuire pendant très 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 longtemps. Et voilà.
En tout cas, on peut parler d'un emprunt continental vers le Japon ?
Alors ça, c'est difficile. C'est impossible à démontrer à l'heure actuelle. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les stratégies de subsistance, il y a effectivement beaucoup de points communs entre le nord de l'archipel, ce que l'on sait aussi des régions en aval de l'Amour, hein, donc les parties les plus orientales de la Sibérie. Il y a effectivement des stratégies communes avec des amas coquillés par ailleurs partout. Après, savoir D'où vient quoi? C'est plus compliqué. Il faudrait avoir un repérage de terrain beaucoup plus pointu. Pour l'instant, c'est le Japon qui est le mieux répertorié.
En tout cas, au Jomon moyen, donc vers 3500 avant notre ère, les décors en relief des céramiques deviennent totalement exubérants. C'est par exemple le cas de ces fameuses poteries en forme de flamme.
Ah oui, complètement. C'est vrai que
c'est très baroque.
C'est absolument. Il se passe quelque chose dans la tête des habitants de l'archipel à l'aube du Jomon moyen, puisqu'on voit tout d'un coup apparaître des décors plastiques qui sont rajoutés sur les poteries. La poterie existe, et puis encore par-dessus, on va rajouter tout un tas d'éléments que l'on va sculpter, inciser, modeler, qui ne doivent pas être évidents d'ailleurs à cuire, et qui traduisent évidemment un univers symbolique très 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 riche, mais qui nous est par définition très difficile d'accès avec la distance chronologique qu'elle a notre.
Et puis il y a bien sûr les fameux dogu, ces étranges figurines, la plus célèbre ayant été trouvée près de Nagano.
Alors c'est vrai que il y a 20 ans lors de l'exposition, parce qu'il y a déjà eu une exposition au Jomon il y a 20 ans, exactement 20 ans,
souviens,
toujours à la Maison de la Culture du Japon à Paris. À cette époque-là, il y avait qu'une Vénus qui était présentée, c'était la Vénus donc Jomon trouvée sur le site de Tanabatake à Nagano, qui est effectivement une figurine de terre cuite, une dogu, c'est le terme qui est utilisé en japonais. Et depuis, on en a trouvé quand même un paquet d'autres.
Classé trésor national.
Voilà, et les plus belles. Alors là, la question est-ce que l'archéologue a le droit de parler de beaux objets ou d'esthétique? Je sais, c'est toujours compliqué. Mais en tous les cas, à l'exposition, vous pouvez voir celles qui sont considérées comme étant les plus belles. Et il y en a quelques-unes d'autres, en plus de celles de Tanabatake.
En tout cas, 18 000 statuettes ont été jusqu'à présent découvertes. Celles-ci se rangent dans de véritables canons esthétiques. Mmh. Il y a les dogu à lunettes de neige, etc., etc.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une très grande diversité de figurines en terre cuite. Mais elles restent à l'intérieur d'un certain nombre de codes. Ce qui veut bien dire que ces sociétés ne produisaient pas ce type d'objet avec des caractéristiques changeantes d'un artisan à un autre. Ça correspond à un univers mental qui est tout à fait précis, même si on n'est pas capable de véritablement statuer dessus, quoi.
Laurent Espoulou, avec le Jomon, sommes-nous à l'origine de l'art japonais?
Alors là, c'est...
C'est la grande question.
Moi, j'aime bien répondre à cette question en vous disant, généralement en répondant par « Est-ce qu'avec Lascaux, on est à l'origine de l'art français ?» évidemment, les populations japonaises, notamment celles du Nord-Est, sont tout à fait admiratives de leur patrimoine archéologique et qui ne le seraient pas compte tenu des caractéristiques de ces sociétés Jomon. Et on aimerait bien en France des fois que les populations s'approprient le patrimoine archéologique avant les Grecs et les Romains. Mais c'est vrai que établir une filiation directe entre les sociétés préhistoriques et les Japonais de nos jours, là on sort du champ de la science.
En tout cas, le Jomon tient-il une place singulière dans l'histoire japonaise?
Tout à fait. La question du temps très reculé de l'histoire humaine n'est pas une question banale. Or, il se trouve que c'est grâce à la découverte de gisements de poterie Jomon, qu'on n'appelait pas poterie Jomon à l'époque, au XVIIe siècle, que certains savants ont pu prendre conscience de la profondeur du temps de l'histoire humaine dans l'archipel.
Une dernière question, Laurent Espoulous. La société Jomon semble avoir tracé son propre chemin au rebours de toute autre civilisation, notamment occidentale.
Alors, c'est vrai que ça fonctionne un peu comme un contre-exemple, puisque si vous vous situez dans un champ de réflexion qui est strictement méditerranéen, par exemple, vous allez vous dire, les gens vont vous dire généralement, il y a l'habitat groupé, il y a la sédentarisation, il y a la poterie, il y a l'agriculture. Or, dans le cas de l'archipel, ces éléments arrivent en ordre qui n'est pas celui-là. Donc oui, en ce sens-là, c'est à rebours. Mais c'était très logique.
Laurent Espoulou, merci beaucoup. Je signale que vous avez récemment participé à un ouvrage majeur, Une histoire des civilisations, paru aux éditions La Découverte, que se tient actuellement à la Maison de la Culture du Japon. Une très belle exposition, Jomon, naissance de l'art, dans le Japon préhistorique.
Merci.
Carbone 14 était réalisé par Pierre Legras, à la technique Célia Dufour et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 parlera des merveilles actuellement exhumées à Pompéi.